Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
L'actualité faite de jour J, on vous les raconte chaque soir sur RTL. Et aujourd'hui, on se penche sur les théories du complot qui poussent comme des champignons dans notre pays. Merci d'être fidèle à Jour J que vous écoutez sur RTL ou en podcast. C'était le 1er avril dernier, mais ce n'est pas un poisson. Imaginez deux gendarmes de Dunkerque effectuer tranquillement un contrôle routier quand tout à coup, ils n'en croient pas leurs oreilles.
Je n'appartiens plus à l'entreprise République Française Présidence. Bah oui, c'est une société depuis 1947. Et vous, vous êtes aussi enregistré à la SEC Washington DC sous un numéro Duns & Bradstreet qui appartient à Washington DC, ce qui fait de vous des mercenaires sur le sol français. Faites des recherches, vous verrez que j'ai raison.
On ne contracte pas.
On ne contracte pas.
On ne contracte pas.
On ne rentre pas en contrat avec vous. Vous êtes une société, je ne rentre pas en contrat avec vous.
Cette vidéo a été vue plus de 9 millions de fois. Et si l'argumentaire de ce couple vous paraît surréaliste, cela n'est pas forcément le cas pour tout le monde, car certains adhèrent au mouvement conspirationniste dont se réclament ces deux personnes. Les théories du complot pullulent sur les réseaux sociaux et inquiètent les spécialistes des dérives sectaires. Alors ce soir, on fait le point avec notre invité. Rudy Reichstadt, bonsoir.
Bonsoir, Flavie Flamand.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le fondateur de Conspiracy Watch et auteur d'une chronique hebdomadaire que je lis assidûment dans ce journal que je lis lui-même assidûment qui s'appelle Franc-Tireur. Voilà. Et vous écrivez dans le complot de la semaine. Et puis on va citer également votre livre Au cœur du complot que l'on retrouve aux éditions Grasset. Explication de texte de ce que l'on vient d'entendre. Vous parlez couramment le Washington DC. Qu'est-ce qu'il dit ce monsieur ?
En fait, ils se réclament d'une mouvance qu'on appelle les citoyens souverains. Ce sont des gens qui ont fait sécession avec la société. Ils reconnaissent aucune autorité légitime, ni l'État, ni les tribunaux, ni les lois. Il explique que le code de la route ne s'applique pas. Pourtant, il roule sur une route départementale, ce monsieur, qui a été payé avec nos impôts. Mais les citoyens souverains estiment qu'ils ne sont pas tenus par le paiement de l'impôt, par exemple.
Voilà, d'accord.
Ils sont hors société. C'est une sorte
donc,
de...
ils n'ont pas de papier d'identité, ils ne
alors,
sont pas
ils
des
s'inventent
citoyens.
Leur propre papier, en fait. Ils les téléchargent. Et ce qui est fascinant, dans le discours là, qu'on entend, c'est à la fois le recours à des arguties pseudo-juridiques complètement ineptes, ça n'a aucune valeur, mais aussi le côté dissident, le côté contestataire, c'est-à-dire faites vos propres recherches, allez voir sur Internet, vous verrez que j'ai raison. Ce qu'il dit là, c'est que la République française est en fait une société privée et qu'il n'a pas contracté. Comme si le fait de dire on ne contracte pas était une formule un peu incantatoire, un peu magique, quoi, abracadabra. Je ne contracte pas, donc je peux faire ce que je veux.
Voilà, je suis libre.
Je peux refuser un contrôle d'alcoolémie, par exemple.
D'accord.
C'est ça qui était en jeu. Et pourquoi explique-t-il que la République française est une société privée ? Parce qu'ils se sont aperçus que, sur le site de l'INSEE, eh bien, la République française présidence a un numéro de SIRET, en fait, juste pour faciliter les échanges monétaires, financiers.
Les transactions.
Il y a toutes les administrations publiques qui ont des numéros de SIRET, en fait. C'est normal, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais pour eux, c'est la preuve que, en fait, l'État est en fait une société privée.
Mais c'est un mouvement français ou ça vient d'ailleurs ?
Non, ça vient d'ailleurs, ça vient des États-Unis.
Okay.
Ça a commencé il y a une cinquantaine d'années, dans les années 70. C'est très lié au mouvement des milices, des mouvements suprématistes blancs aussi, mouvements d'extrême droite. On sait que Timothy McVeigh, qui était l'auteur de l'attentat d'Oklahoma City, extrêmement meurtrier en 95, était quelqu'un qui avait dans son discours des éléments empruntés aux citoyens souverains, par exemple.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce couple de quinquagénaires drômois ? Voilà, ils vivent dans la Drôme, ils ont une cinquantaine d'années, ils ont été filmés, enfin c'est elle d'ailleurs qui
ouais,
filme
qui
dans
filme,
la voiture et qui fière mettra en ligne donc, cette altercation avec deux gendarmes qui n'y comprennent absolument
bien sûr.
Rien
et
du
et qui
tout,
filment les visages des gendarmes aussi.
Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le mouvement s'est installé en France ou on est face à quelque chose de totalement marginal encore ?
Alors ça reste marginal, c'est pour ça d'ailleurs que la vidéo a été très virale, parce que tout le monde est un peu tombé des nues, s'est dit mais de quoi on parle, qu'est-ce que c'est ? Donc ça reste un mouvement confidentiel. Nous, puisqu'on s'intéresse à ça, aux extrémismes et aux complotismes les plus radicaux, on l'observe depuis des années. Donc c'est pas nouveau pour nous, c'est toutes ces thématiques, l'histoire de la fraude du nom légal, par exemple, il explique, il donne pas son nom, il donne un prénom en expliquant de la famille Intel, je vais pas le citer, par oui dire, voilà, et en expliquant qu'il faut l'écrire en minuscule, parce que si on l'écrit en minuscule, eh bien, on ne contracte pas. Enfin voilà, c'est complètement fou. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que, tout simplement, le complotisme est quelque chose qui est mondialisé aujourd'hui, que ça transcende les frontières, que grâce à Internet, une simple connexion suffit pour avoir accès à tout ce matériel complètement délirant et très contestable. Voilà.
D'accord. Donc, ce sont des cas isolés, c'est marginal, même si vous connaissez donc ce mouvement conspirationniste depuis des années. Mais néanmoins, voilà, c'était peut-être pas en France il y a 15 ans, quoi.
Non.
Enfin, est-ce qu'on assiste à quelque chose de nouveau là dans notre société ?
Alors, ça existe au Canada, dans les pays du Commonwealth, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Ça existe en Allemagne depuis les années 80. Il y a le mouvement dit des citoyens du Reich, des gens qui refusent la légitimité de la République fédérale allemande.
Ouais, tout à fait.
Souvent, d'ailleurs, parce que ce sont en fait des nostalgiques du nazisme qui peuvent pas exprimer leur soutien au nazisme légalement, donc ils passent par ce biais-là. On parle de groupes qui peuvent être impliqués dans des tentatives de coup d'État, des tentatives de sabotage, des tentatives d'enlèvement. L'enlèvement du ministre de la Santé, par exemple, il projetait ça, un groupe de citoyens du Reich en Allemagne, il y a un peu plus d'un an. Donc, c'est pas du tout rigolo. Aux États-Unis, on a eu, en une quarantaine d'années, depuis 83, 27 policiers abattus.
Voilà, okay.
Par des gens qui se réclamaient du mouvement des citoyens souverains.
Donc voilà, donc ça n'est pas en fait que du folklore tout
non.
ça. Voilà, ça peut prêter à sourire. On va encore entendre deux, trois trucs dans un instant qui peuvent effectivement au premier abord prêter à sourire, mais qui en disent long aussi sur les dérives du monde d'aujourd'hui et peuvent inquiéter. On va se retrouver dans un instant avec vous, Rudy Reichstadt. Vous n'étiez pas en Amérique du Nord il y a une dizaine de jours. Il y avait une éclipse de dingue, mais qui a rendu aussi les gens un peu fous.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Voilà, Rudy Reichstadt, fondateur de Conspiracy Watch, est notre invité ce soir et on parle des théories du complot. Justement, c'était il y a 10 jours, c'était en Amérique du Nord.
Oh my gosh! Wow!
Un phénomène astronomique rarissime qui a évermeillé les Américains. Une éclipse totale du soleil pendant 4 minutes. Alors certains se sont mariés à ce moment précis, c'est une idée plutôt romantique. Mais d'autres aussi ont disjoncté, comme une femme qui a poignardé son mari à mort et jeté ses enfants de la voiture alors qu'elle filait à toute allure. Une éclipse suffit, Rudy Reichstadt, vous êtes donc notre invité, à alimenter les thèses complotistes ?
Oui, en tout cas les thèses complotistes ou des faits divers particulièrement inquiétants. Ce qui est intéressant avec ce qu'on observe depuis quelques années, c'est que des faits divers comme celui-là, on en a toujours eu. D'accord. Des gens qui poignardent leurs conjoints, qui tuent leurs enfants, malheureusement, etc.
Enfin, cette femme, c'était pas n'importe qui. Elle était visiblement, absolument. Elle adhérait à une thèse.
Elle adhérait à ces thèses extrémistes parce que le complotisme, c'est devenu le dénominateur commun de toutes les mouvances extrémistes du monde, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces faits divers, de plus en plus souvent, les infanticides notamment, sont liés à des croyances complotistes. En 2021, on a eu deux affaires complètement folles. Une femme qui a noyé ses trois enfants parce qu'elle voulait les soustraire à un réseau pédocriminel. En tout cas, elle s'était persuadée de ça. Et puis un homme qui a tué ses deux enfants, persuadé qu'ils étaient des reptiles et qui a expliqué au FBI qu'il avait vu des vidéos de David Icke, donc le théoricien du complot britannique sur ce sujet-là, et qu'il était convaincu par ça.
Voilà. On reparlera des reptiliens. Ce dont vous nous parlez, là, ces infanticides, ils ont eu lieu à l'étranger, en France.
Aux États-Unis, oui.
Aux États-Unis. Mais alors, justement, est-ce que tout ça, là, ce qu'on entend, ça pourrait arriver, ça pourrait se produire un jour en France, vous qui êtes spécialiste de ces questions-là? Est-ce que tout vient des États-Unis, je dirais, avec un certain décalage?
Oui, souvent, en fait. On a un peu de décalage, mais de moins en moins, parce qu'aujourd'hui, on voit, il y a très peu de temps entre l'émergence d'une théorie du complot de l'autre côté de l'Atlantique et sa déclinaison francophone.
D'accord.
C'est de plus en plus resserré.
Ok, parce que moi, je pensais notamment à Michelle Obama, qu'on avait accusé de transidentité il y a quelques années. Là, c'est Brigitte Macron, dernièrement, qui a subi cette rumeur dégueulasse, relayée d'ailleurs par une complotiste aux États-Unis. D'ailleurs, je vous invite à découvrir l'enquête de la journaliste Emmanuelle Anison, qui s'intitule « L'affaire Madame » et qui est à retrouver chez Studio Fact à ce sujet. Donc on a ce sentiment que ces rumeurs, en tout cas cette facture de rumeurs et de complots, nous vient d'outre-Atlantique et vient même toucher aujourd'hui la classe politique française.
Alors cela dit, à l'époque, sous De Gaulle, il y a eu l'affaire Markovic.
Absolument.
Touché,
la femme de Pompidou.
La femme de Georges Pompidou,
exactement.
Absolument.
Dont on disait qu'elle participait à des
soirées
parties
fines.
On en parlait il y a quelques jours d'ailleurs sur une émission, dans une émission spéciale sur Pompidou.
Donc ça, la diffamation, la calomnie, c'est pas nouveau. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est cette panique morale, notamment autour du transgenrisme, autour de l'identité sexuelle, de l'orientation sexuelle.
Ouais.
Et effectivement, quand Obama était président, entre 2008 et 2016, on l'a accusé d'être un homosexuel caché et on a accusé sa femme de mentir sur son sexe, sur son genre, en expliquant qu'elle était en réalité un homme, qu'elle s'appelait Michael et pas Michel. Et on a eu la même chose avec Brigitte Macron.
Ce qu'a vécu Brigitte Macron et la rumeur Jean-Michel Trogneux, c'est la même chose, quoi.
Oui, absolument. Et fondée sur rien, puisque le fameux Jean-Michel Trogneux, c'est son frère, il existe, on sait qu'il existe, c'est une vraie personne. Et c'est fait à la fois pour salir, et puis chez ceux qui y croient, les plus crédules, c'est catastrophique.
Et justement, on se demande qui sont ceux qui y croient, qui sont ceux qui sont le plus sensibles à ces croyances. Parce que je disais tout à l'heure, il y en a certaines qui peuvent nous faire sourire, mais d'autres y croient véritablement. Pourquoi ?
Ils y croient pour un tas de raisons différentes et très hétérogènes, et c'est très complexe. Sans doute parce qu'ils ont l'impression d'avoir accès à une réalité cachée, donc d'être plus malin que les autres, il y a une fonction narcissique qui est associée aux théories du complot. Sans doute aussi parce que c'est une manière de réenchanter le monde, les théories du complot, de dire il y a des forces obscures, comme ça, qui expliquent que finalement le monde n'est pas chaotique, il y a un sens, il y a des gens qui nous dirigent dans l'ombre. Donc d'une certaine manière, c'est rassurant.
Oui, ça expliquerait l'inexplicable,
c'est
ce qui nous échappe.
Et puis, une autre hypothèse, mais qui n'est pas exclusive des deux autres, c'est que en fait, ça permet de se mettre à l'abri du réel, la croyance, de dire voilà, je refuse cette réalité-là, et donc je fais mon marché dans le grand supermarché des croyances qui est Internet aujourd'hui, et voilà.
Il y a 35% des Français qui déclarent croire aux théories du complot, ça paraît énorme. On dit aussi que les jeunes sont particulièrement touchés, on parle aussi d'électeurs des extrêmes, notamment de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour, ou dans un autre registre de Jean-Luc Mélenchon.
Absolument. Oui, c'est vrai que c'est corrélé à l'extrémisme politique, et on le voit, c'est-à-dire que les sympathisants de ces formations politiques-là sont plus, statistiquement, plus susceptibles d'adhérer à ces thèses-là. Et s'agissant des jeunes, il faut dire une chose, ils ne sont pas majoritairement complotistes, les jeunes. Simplement, ils le sont relativement aux générations qui les précèdent, notamment aux seniors, à leurs grands-parents, ils le sont plus. Pourquoi ? Pas parce qu'ils sont jeunes, mais parce qu'ils sont jeunes maintenant.
Exactement.
C'est-à-dire
les réseaux
que
sociaux.
Leur manière d'accéder à l'information, à la connaissance, ce sont les réseaux sociaux.
Eh bien justement, on va en parler dans un instant. On va entendre une complotiste qui se réclame de QAnon et qui parle justement de Telegram comme sa source d'information. On va aller ensuite sur TikTok. On parlait des reptiles. Moi, je ne connaissais pas cette histoire de reptiliens. Vous nous l'expliquerez dans un instant. Vous restez avec nous. À tout de suite sur RTL.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Au cœur du complot, c'est le livre de notre invité Rudy Reichstadt. Vous le retrouvez aux éditions Grasset. Les médias, les personnalités, Rudy Reichstadt, est-ce qu'elles ont aussi une responsabilité ? Je voudrais que l'on écoute deux personnalités qui ont succombé aux thèses complotistes. Alors, il y en a une qui est plutôt drôle, moi je trouve, enfin qui ne m'a pas fait d'effet. Il y en a une qui est un peu plus ennuyeuse. Gims, Jean-Marie Bigard.
Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça.
On est absolument sûr et certain maintenant que les deux avions, celui qui s'est écrasé soi-disant dans la forêt et Pentagone, n'existent pas. Il n'y a jamais eu d'avion. Ces deux avions volent encore. C'est un mensonge absolument énorme, quoi.
Bon, alors se dire que les Égyptiens avaient des fours à micro-ondes dans leurs pyramides, moi ça me fait marrer et je ne me suis pas véritablement arrêtée à cette théorie du complot de Gims. En revanche, Jean-Marie Bigard, lui, il est tombé dans le panneau d'une théorie du complot qui est l'un des grands classiques, je dirais, dans ce genre.
Celle selon septembre, oui, et puis l'archive date, parce que je crois que c'est 2008 ou 2009 de mémoire, donc c'était déjà un sacré bout de temps. Oui, Jean-Yves Bigard fait partie de ces personnalités, il n'est pas le seul à avoir succombé à tout ça.
Mais on a une responsabilité quand même quand on est derrière un micro, quand on est quelqu'un de connu, quand on s'exprime sur les réseaux sociaux.
Bien sûr, quand on a une notoriété, il vaut mieux la mettre au service de causes nobles que des fake news. Et là, c'est vraiment le cas.
Et les médias ont une responsabilité aussi ?
Bien sûr.
De ne pas prêter le flanc ou donner un temps de parole. On a pu le voir dernièrement sur des plateaux de télévision, alors comment on va l'appeler cette télé, de divertissement, je ne sais pas, mais bon, derrière le divertissement se cachent aussi forcément d'autres dessins, et c'est quand même assez problématique, non ?
C'est problématique dans la manière dont on présente ces sujets-là, et dans la manière dont on cautionne des personnes qui n'auraient pas la même influence s'ils n'étaient pas passés à la télé. Parce que le côté vu à la télé, c'est encore très prescripteur, ça joue beaucoup.
Et par exemple, vu chez Hanouna,
Ça marche encore. Ben oui, parce que en fait, ça nimbe ces personnalités-là d'une certaine, une certaine valeur. On se dit ah oui, quand même, ils sont suffisamment importants pour être invités à la télévision, etc. Donc ils capitalisent ensuite tout ça de nouveau sur les réseaux sociaux, sur Internet. Mmh. Moi, je crois que c'est un phénomène, le complotisme, qui traverse toute la société, donc on a raison d'en parler. Mmh. Mais la question est de savoir comment.
Bien sûr.
Eh bien, comment ? En informant les gens, en ne les prenant pas pour des imbéciles, en refusant la course au buzz à tout prix, l'infotainment de spectacle, et en disant, bah, voilà ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, voilà pourquoi ces théories peuvent être dangereuses et inquiétantes aussi, mmh. Et on va en parler avec des spécialistes, et pas forcément avec des gens qui vous expliquent que Céline Dion boit du sang de bébé pour rester éternellement jeune.
Ou alors, on va sur le site de Conspiracy Watch,
par exemple,
qui permet effectivement de démêler le vrai du faux. Je le disais, bon, l'électricité dans les pyramides, c'est une chose, le 11 septembre en est une autre. Du coup, sur quoi repose une bonne théorie du complot ? Sur quoi les ingrédients pour que ça marche ?
Les ingrédients, il faut que ce soit un sujet dont tout le monde a entendu parler. Le 11 septembre, c'est le cas. Les pyramides d'Égypte, tout le monde connaît. Bon. Il faut que ce soit un événement ou un sujet politisable sur lequel qu'on peut instrumentaliser, parce que c'est quand même un discours politique, hein, les théories du complot, c'est pas pour rien. Et ensuite, il faut une dramaturgie avec un gentil, un méchant, et un grand méchant, si possible. Alors ça peut être la CIA, ça peut être les Juifs, ça peut être telle ou telle entité, le Bilderberg, le Forum de Davos, les services secrets, ce que vous voulez.
L'inaccessible, quelque part, un peu aussi.
Oui, et puis alors, ce qui marche très bien...
Cette autorité que l'on n'arrive pas forcément à pénétrer ou à toucher, quoi.
Oui, c'est ça, insaisissable.
Ouais.
Et puis ce qui marche bien, c'est les anfractuosités qu'on a dans le réel. C'est-à-dire que quand vous rapportez ce qui s'est passé sur un événement d'actualité ou un événement historique, il y a toujours des zones d'ombre, en fait, c'est normal. On ne sait jamais absolument tout dans une parfaite clarté. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Et il faut être assez humble pour dire, bah, peut-être qu'on ne saura jamais précisément qui a dit quoi, qui a fait quoi à tel moment de l'histoire. Mais ça ne remet pas en cause, évidemment, l'ensemble de l'histoire, de ce qui s'est passé, l'ensemble du réel, l'ensemble des faits. Or, les complotistes, ils s'engouffrent là-dedans, dans ces failles, pour pouvoir vous amener autre part, en fait.
On va se retrouver dans un instant, Rudi Reichstadt. Vous allez enfin m'expliquer ce que sont les reptiliens, parce que j'ai entendu dire que le président Emmanuel Macron était reptilien. Ça fait partie des rumeurs ? Ce sont des méchants, les reptiliens ?
Oui, on va en parler.
D'accord, ok.
Le vrai problème, c'est la pédophilie et le trafic d'enfants mondial. Il y a des tunnels qui passent sous la Maison Blanche et qui continuent partout dans le monde. Ils frappent les enfants, ils les torturent, parce qu'ils veulent faire monter l'adrénaline dans leur sang.
L'adrénochrome, c'est ça ?
Oui, et ils vendent ça.
Mais d'où vous tenez ces informations ?
Mes infos viennent du réseau Telegram, parce que ce n'est pas censuré.
Voilà, vous venez d'entendre une complotiste qui se réclame de QAnon, Rudi Reichstadt. QAnon, on en avait entendu parler notamment au moment de l'assaut du Capitole, lorsque Donald Trump a invité ses partisans à marcher sur le Capitole parce qu'il avait perdu les élections et il refusait de donner les clés, je dirais, de la Maison Blanche à son successeur Joe Biden. C'est, je crois, la première fois, en tout cas personnellement, que j'ai entendu parler de QAnon. C'est quoi ?
C'est un mouvement qui est apparu en 2017 et qui a son origine dans une affaire qui date de la présidentielle de 2016 aux États-Unis avec l'affaire dite du Pizzagate. Mm-hmm. C'était l'idée que les démocrates autour d'Hillary Clinton en fait sont à la tête d'un vaste réseau pédocriminel international et que des dizaines voire des centaines de milliers d'enfants sont enlevés chaque année et alimentent ce réseau pédocriminel, ils sont soumis à des tortures, etc. Pourquoi ? Pour notamment prélever sur eux du sang et dans ce sang en tirer une substance qui s'appelle l'adrénochrome, qui a rien de mystérieux, cette substance. Hein, c'est en fait l'oxydation de l'adrénaline, quelque chose qu'on sait faire d'ailleurs de manière synthétique. Mais les complotistes prêtent des vertus, notamment de jouvence. En gros, ce serait un peu la drogue des Illuminati, c'est ce qui leur permettrait de rester éternellement jeunes. C'est évidemment inepte, c'est faux, factuellement faux. Mais des millions de gens croient à ça et des millions de gens aux États-Unis pensent qu'il y a effectivement un grand réseau pédocriminel sataniste contre lequel Donald Trump, quand il était président, luttait, mais clandestinement, de manière secrète, qu'il n'en faisait pas la publicité.
La pédophilie est un argument massu dans les théories du complot.
Mais c'est normal, parce que qu'est-ce qui indigne le plus ? Peu de sujets qui indignent.
Moi, le combat politique que j'ai mené contre les crimes sexuels pour mineurs, je n'ai jamais autant eu de sollicitations à ce moment-là. Parfois même d'associations. Enfin, je me suis rendu compte que la théorie du complot gangrénait aussi ce combat-là.
Bien sûr, parce que l'enfance, c'est l'innocence.
C'est l'intouchable.
C'est l'intouchable. Donc, qu'est-ce qu'on protège ? On protège avant tout nos enfants. c'est normal. Donc on est tous indignés par ces affaires-là. Donc jouer à manipuler les gens avec ce sujet-là, qui est particulièrement sensible, qui indigne tout le monde, et tous les parents, on n'a même pas besoin d'être parents pour être indignés,
oui. C'est évidemment gagner l'adhésion.
Jackpot. Mais évidemment. Oui, c'est le jackpot pour les complotistes.
Mais alors justement, cette femme-là, que l'on a entendue, elle évoque Telegram comme source d'information. Alors c'est hyper intéressant, parce que là on parle des réseaux sociaux. Oui. Pourquoi Telegram? C'est parce que c'est codé, Telegram.
C'est une messagerie cryptée.
Et c'est hyper intéressant parce que en fait, elle perçoit Telegram non pas comme un terrain de fausses informations, hyper facile, parce que c'est comme un texto, un Telegram, mais comme une source d'informations crédible, parce que justement, quelque part, réfractaire à la pensée unique.
Comme si c'était un média. Oui, mais en réalité, les complotistes, ils recomposent des paroles d'autorité. Ils rejettent la parole des médias dominants, des médias dits mainstream, etc., les médias conventionnels, quoi, RTL et les autres, au profit d'autres sources d'autorité qui, là, qui sont indiscutables à leurs yeux. Ouais. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'ils font une confiance aveugle dans ces sources dites alternatives, en se méfiant aussi, tout aussi aveuglément, des sources conventionnelles, qui en général sont de meilleure qualité et quand même plus fiables.
Non mais ces sources alternatives, en plus, elles ne sont pas... professionnels.
Ben non.
Ce sont des gens qui sortent de nulle part, qui ont un sens très aigu, j'imagine, des faiblesses de l'autre et de la crédulité de leur... C'est le territoire des nouveaux gourous, quoi.
Des charlatans, des gourous, il y en a toujours eu. Sauf que maintenant, ils ont un instrument très puissant qui sont ces plateformes de réseaux sociaux.
Bon, cette femme, complotiste, certes, on comprenait ce qu'elle disait. C'était préhensible. Voilà, on pige ces mots. De Telegram, on va passer désormais à TikTok. Avant d'écouter ce qu'on vous a réservé, est-ce que vous pouvez donc nous dire ce qu'est un reptilien?
Alors, un reptilien, pour ceux qui y croient, c'est souvent une personne très très puissante qui aurait pris une forme humaine, donc ça peut être la reine d'Angleterre, Barack Obama ou Emmanuel Macron, mais qui en réalité serait un reptile et issu d'une espèce extraterrestre qui nous gouvernerait en secret depuis des millénaires.
Donc un vrai reptile, quoi.
Un peu comme dans la série V.
D'accord, ok. Donc, en fait, le président Macron, et comment il l'explique, ça, par exemple, qu'il soit reptilien, enfin... Est-ce qu'il y a des détails physiques?
Il y a des vidéos où, lorsqu'on zoome sur les yeux des gens, c'est on voit que leur pupille, à un moment, change, et donc ce sont des yeux de serpent ou de lézard, et voilà, c'est le niveau de l'argumentation.
Ok, eh ben écoutez, on va tout de suite retrouver un médium qui, lui, donc, est sur TikTok, et lui, prétend connaître la vérité.
Toutes les personnes qui vous expliquent que les reptiliens ne sont plus sur Terre, qu'ils ont été jugés en Antarctique et que la Lune a été désactivée, travaillent pour les reptiliens. Ils n'ont pas suffisamment évolué de sorte que leur niveau de conscience est encore bien limité par les croyances limitantes imposées, mais qui peuvent être transcendées, de la matrice 3D sur Terre.
Alors là, moi, pardon, mais ce monsieur médium qui cartonne sur TikTok m'a perdu. C'est-à-dire, je ne comprends rien de ce qu'il dit.
Oui, mais ça donne une impression de choses intelligentes si on n'y est pas préparé. Et on se dit, ça doit avoir du sens tout
C'est-à-dire que les esprits faibles, du coup, sont impressionnés par l'élocution et l'éloquence de cet homme.
C'est le but, je crois. Une petite anecdote quand même sur les reptiliens pour montrer à quel point quand même, ailleurs qu'en France, c'est une théorie du complot beaucoup plus populaire qu'on le croit. Je crois que c'était en 2013, en tout cas il y a une bonne dizaine d'années. Vous savez, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis aussi d'ailleurs, si vous arrivez à réunir un certain nombre de signatures de citoyens, vous pouvez obliger le gouvernement à vous répondre sur une question qui est posée. C'est une sorte de pétition.
Ouais.
Et là, je crois de mémoire que c'était le premier ministre néo-zélandais de l'époque qui avait dû répondre, selon la loi, à une question qui était de prouver qu'il était reptilien ou pas. Enfin, est-ce qu'il était reptilien? Et il avait dû faire une conférence de presse en montrant, en produisant un certificat médical. Et alors, il avait également fait un certificat vétérinaire, pour la blague, en disant, on atteste que je ne suis pas un reptile. Voilà. Mais c'est dire que... je crois que c'était 200 000 signatures, quelque chose comme ça, qu'il fallait pour... Voilà, donc c'est pas si confidentiel qu'on pourrait l'espérer.
Sûr. Oui, bien sûr. Et puis surtout, en fait, ce que j'entends, c'est que ça finit aussi par, en passant par des biais comme celui que vous venez d'évoquer, par prendre un certain pouvoir, quoi. C'est-à-dire d'être obligé à un moment donné de soumettre. Mais comme on a entendu, je reviens encore sur l'affaire donc Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron, ouais. comme on a entendu quand même des complotistes dire mais que cette femme nous prouve qu'elle n'est pas un
c'est
homme.
Ça. Qu'elle prouve,
c'est,
qu'elle fait des
certificats, c'est dégradant,
etc.
C'est humiliant.
Vous savez, Barack Obama...
Ils ont ce pouvoir, quand même.
À l'époque où il était président des États-Unis, il y a eu ce mythe qui s'est développé selon lequel il ne serait pas né américain.
Oui, absolument.
Il était en réalité nigérian, je crois.
Ouais.
Et il a dû produire ce certificat de naissance. Ça n'a eu aucun effet chez ceux qui voulaient croire qu'il n'était pas américain, qu'il était un usurpateur. Il l'a produit et, qu'on dit les complotistes, c'est un faux. Voilà.
Voilà. Donc, ça veut dire que,
Non.
On ne peut pas les retourner. Bon, en tout cas, ils sont toujours là. On va se retrouver dans un instant, parce qu'on va revenir aussi sur les grands classiques en matière de théorie du complot. Ça nous semble récent, mais en fait, pas du tout. Hein. Vous l'avez déjà dit à plusieurs reprises, ça a toujours existé.
Si la Terre est un globe, il y a des gens qui se retrouvent la tête en bas. Comment des gens peuvent-ils vivre la tête en bas ?
Parce qu'il y a la gravité.
Ouais, ça c'est l'histoire qu'on nous raconte.
Alors, c'est d'ailleurs toujours l'argument, hein. C'est l'histoire qu'on nous raconte. Mais qui est on ? Rudi Reichstadt, vous êtes notre invité. On entend là ce que l'on appelle un platiste. Mmh. Alors platiste, ça veut dire la Terre est plate, hein. c'est pas compliqué. Ça a toujours existé, ça fait partie des grands classiques, je dirais, en matière de théorie du complot.
Oui, alors en réalité, on sait que la Terre est ronde depuis l'Antiquité. Hein.
Ouais.
Le vrai débat...
Mais déjà à l'époque, on remettait en question ça, non ?
Pas vraiment. D'accord. À mon avis, moins qu'aujourd'hui, pour des raisons que je vais essayer d'expliciter. Mais le grand débat à la Renaissance, c'était est-ce que c'est la Terre qui est le centre du monde ou est-ce que c'est le Soleil ? Qui tourne autour de qui, quoi, en gros. Et puis, Christophe Colomb savait que la Terre était ronde. Ça, pour les contemporains, ça faisait aucun mystère. Bon. Là, la Terre plate, d'abord, c'est un mouvement, avant Internet, qui est présent chez des fondamentalistes chrétiens, quand même. Hein. C'est des fondamentalistes, c'est des gens qui pensent que la Terre, l'univers ont 6000 ans, que c'est la création, que la Terre est le centre de l'univers, que tout tourne autour de nous, etc. Donc oui, on peut être amené à penser que la Terre est plate. Par ailleurs, il y a un argument qui revient très souvent chez eux quand on regarde des vidéos platistes, c'est un mensonge, tout est mensonge, et si la Terre est plate, Dieu existe. Voilà. Et donc, le complot pour nous faire croire qu'elle est ronde, ce serait une sorte de complot athée, un complot darwinien, etc. Pourquoi il y a plus de gens qui croient à ces choses-là ces dernières années ? Ben, en fait, grâce à YouTube. En fait, on sait que les gens qui sont dans les conférences platistes, ils sont devenus platistes parce qu'ils ont vu des vidéos platistes sur YouTube. Si on enlève YouTube de l'équation, il n'y a pas de regain de platisme aujourd'hui. Pas du tout. Ça ne ferait même pas de débat, on n'en parlerait pas. Voilà.
Oui, c'est dire la puissance et le pouvoir de nuisance de tous ces réseaux sociaux et de cette société qui est en crise de confiance avec les médias traditionnels.
Bien sûr.
Parce qu'elles se font le lit aussi sur tout ça.
Surtout que ces histoires-là de complotisme, de platisme, elles bénéficient d'une prime de visibilité algorithmique du fait des plateformes. Parce que ce sont des contenus très sensationnalistes. On prétend vous délivrer la vérité sur la forme de la Terre, donc c'est quand même énorme. Et on sait qu'on vous les suggère plus facilement que d'autres contenus à haute valeur ajoutée informationnelle. Si je peux dire un mot quand même sur le platisme, une petite anecdote. Thomas Pesquet.
J'allais vous en parler.
C'est vrai ?
Mais qu'est-ce qu'on est fait pour s'entendre, vous et moi ? C'est incroyable. Alors, allons-y.
Thomas Pesquet.
Sa dernière boulette ?
Non.
Moi, je vais vous parler de sa dernière boulette. Ah bah allez-y,
voilà.
Alors.
Mais Thomas Pesquet, qui est allé en orbite dans l'ISS, donc la Station Spatiale Internationale, qui a fait des photos de la Terre, donc de l'extérieur, on voit bien qu'elle est ronde. Thomas Pesquet reçoit des messages, en tout cas, il en a témoigné, lui disant, bon, vous pensez peut-être être allé dans l'espace en orbite autour de la Terre, mais en fait, on vous a lavé le cerveau. En fait, vous êtes sympa, on vous en veut pas, mais en fait, vous voyez pas à quel point ils vous ont lobotomisé. Voilà.
Vous êtes victime, Thomas Pesquet. Mais figurez-vous que dernièrement, Thomas Pesquet, il a commis une petite boulette. C'était sur le plateau de Quotidien, écoutez.
Flying to the moon ?
Eh ben pourquoi pas ?
En 2025 ?
On en parle, ça va venir super vite. Quelque chose un peu plus durable, un peu plus permanent, on utilisera les ressources disponibles, on va s'établir de manière permanente. C'est vraiment l'étape suivante de la conquête spatiale. Premier vol cette année, un premier vol pour tester le matériel autour de la Lune. On revient avec personne dedans. Le premier vol avec quelqu'un dedans, ils vont peut-être pas se poser, mais ils vont aller là-bas. C'est 2 ans après, donc c'est demain.
Alors, ça tient à peu de choses. Vous avez entendu sa formulation. Et en fait, à un moment donné, il a quelque part prêté le flanc à cette théorie du complot qui dit qu'on n'est jamais allé sur la Lune parce qu'il dit le premier vol.
Mais oui, mais le premier vol pour le retour sur la Lune, en fait, c'est très clair si on comprend le contexte de la conversation. Et d'ailleurs, je crois qu'il est obligé ensuite, si je me trompe pas, de se rendre d'un message pour dire évidemment qu'on est allé sur la Lune en 69, etc. Donc il n'y a pas de débat là-dessus.
Et à l'époque, d'ailleurs, on avait déjà remis en cause la parole des astronautes qui avaient mis un pied sur la Lune, puisque Buzz Aldrin avait failli en venir aux mains avec quelqu'un qui lui avait
dit qu'il
lui avait dit qu'il était un menteur.
Dans la rue, comme ça, il vient vers lui. Il lui dit vous êtes un menteur, vous êtes un escroc, etc. Alors que le type a quand même risqué sa vie. Il faut voir les risques. En fait, ces gens-là sont des héros, les astronautes qui sont à la conquête de la Lune. Ils ont risqué leur vie et on leur dit non seulement vous n'êtes pas un héros, mais en plus vous êtes un menteur, un escroc,
un imposteur.
Un imposteur. Bien sûr qu'on en vient aux mains.
Quelles sont les autres grandes théories là, qui circulent encore? Je pense à Lady Di, la mort de Lady Di par exemple.
Bien sûr, il y a un tiers des Français à peu près qui pensent que ce n'est pas un accident, que c'est un
assassinat
maquillé. Ouais. Exactement. Le 11 septembre, évidemment. Grand classique. Chez les plus âgés, l'idée que JFK a été assassiné par un complot de la CIA a encore des beaux jours. Et puis, il y a les grandes théories du complot en matière de santé. Évidemment, sur le Covid, sur la vaccination, l'idée que Big Pharma aurait une cure contre le cancer, mais la cacherait aux gens pour continuer à leur vendre des médicaments et faire du profit. Les théories du complot en matière de géopolitique, alors on est servi entre ce qui se passe en Ukraine, au Proche-Orient, il y en a à foison en permanence.
Qui disent quoi?
Qui disent, par exemple, sur l'Ukraine, que ce qui s'est passé à Boutcha, par exemple, qui est des exactions contre des civils commises par l'armée russe, sont une mise en scène. Voilà, c'est une forme de négationnisme en temps réel auquel on a assisté. Exactement le même schéma pour le 7 octobre dernier en Israël. Le massacre qui a eu lieu le 7 octobre, l'attaque du Hamas, on a eu immédiatement un discours de facture négationniste. C'est vraiment le terme pour dire non, les gens ne sont pas morts. S'ils sont morts, en fait, ce sont les Israéliens eux-mêmes qui les ont tués. Voilà, c'est le grand thème. Et en fait, tout ça est un false flag, une opération sous faux drapeau pour avoir un prétexte pour attaquer et tuer les Palestiniens, etc. C'est ça qu'on a vu et entendu massivement, avec mêlé à ça des fake news, des manipulations d'images, y compris de sons d'ailleurs, d'enregistrements. Donc la désinformation aujourd'hui est assez massive et elle est partout.
Alors comment lutter contre ça? Ça va être notre prochaine partie, parce qu'il y a ceux qui nous écoutent et puis il y a peut-être des gens d'ailleurs qui se disent effectivement j'ai cru à ça. Et voilà, c'est peut-être la démonstration ce soir aussi de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire expliquer. Vous allez nous expliquer vous, ça dans un instant, à tout de suite.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Alors mon cher Rudi Reichstadt, on va essayer de s'adresser à ceux qui pourraient se sentir concernés justement, parce qu'on le disait, c'est quoi, un tiers des Français qui aujourd'hui adhèrent à... je crois à des théories du complot. Alors, il y en a certaines qui... Vous voyez, il y en a certaines qui paraissent complètement énormes et d'autres qui sont tellement bien ficelées qu'on pourrait s'interroger.
Mais en fait, il est important de dire quelque chose, c'est que c'est assez normal de tomber dans le panneau.
C'est ce que je voulais dire.
C'est normal, c'est humain d'être impressionné par ces arguments complotistes. Parce que c'est très bien fait, parce que ça procède par intimidation intellectuelle. Vous voyez, on vous donne plein d'arguments, plein d'éléments. On vous dit, regardez, quand même, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est étrange. Ça, plus ça, plus ça. Tous ces arguments-là, pris séparément, ils valent rien. Soit ce sont des fake news, soit c'est des choses vraies, mais qui ne prouvent rien. Mais présentées ensemble, mises ensemble, ça produit un effet d'intimidation qui fait qu'on se dit, mais... tout ne peut pas être faux, effectivement. Et là, on se met à douter. Et c'est normal de douter. Et c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait des journalistes en face qui fassent la part des choses entre le vrai et le faux, qui vérifient les choses, qui enquêtent, qui contre-enquêtent. Voilà.
Les médias aujourd'hui, ces fameux médias dits traditionnels que d'aucuns appellent les vieux médias, proposent régulièrement aujourd'hui, ont presque tous une antenne d'ailleurs, qui dénonce la fake news.
Des cellules de fact-checking.
Exactement.
Alors, ça, c'est très bien, parce que nous, par exemple, on s'appuie beaucoup sur ce travail-là. On gagne beaucoup de temps grâce à ce travail-là. Alors, évidemment, ça ne résoudra pas le problème intégralement, mais ça contribue à le résoudre, ça va dans le bon sens. Voilà, ça éclaire le public, ça l'informe. Donc, je crois que c'est utile et que ça mérite d'être soutenu et encouragé. Maintenant, beaucoup de médias traditionnels, conventionnels, quelle que soit la manière dont on les qualifie, ont aussi une part de responsabilité parce que parfois, ils ne s'en prennent pas à la désinformation. Ils sont parfois dans un rapport de concurrence avec les médias alternatifs. Ils courent après.
Donc la surenchère.
Mais oui, la surenchère. Donc on fait venir des gens qui ne représentent rien et on fait des débats, comment dire, qui n'ont pas lieu d'être. Vous voyez, on ne va pas se mettre à débattre sur l'existence des chambres à gaz ou sur les reptiliens. Ouais. Ça n'a aucun sens en prime time. Bon. Et surtout, quand on le fait, on met en contact des gens qui n'ont jamais entendu parler de ces choses-là, ouais, avec ces choses-là, et potentiellement, on les met en danger. Parce que les théories du complot, ça peut être dangereux pour toute la société, ça peut être dangereux pour ceux qui sont ciblés par ça, qui sont victimes de ça, mais pour ceux qui y croient aussi. On parlait au début de cette émission des citoyens souverains et de ce couple d'automobilistes. Leur croyance les met dans des situations qui peuvent devenir pour eux dangereuses et inextricables. Les citoyens souverains, c'est des centaines d'affaires de surendettement, de gens qui perdent leur emploi, de gens qui déscolarisent leurs gosses, qui roulent sans plaque d'immatriculation, qui finissent par aller en prison. On en a une, Alice Pazalmar notamment, qui était complètement dans ce mouvement-là, qui avait brûlé son passeport dans une vidéo virale. Elle a fini en prison quand même à un moment. Elle s'est vue retirer la garde de ses enfants. C'est des drames humains aussi. Donc il ne faut pas oublier cette dimension-là du problème.
Tout à l'heure, je vous demandais, Rudi Reichstadt, mais quand quelqu'un y croit vraiment, on ne peut pas lui faire faire machine arrière, et vous m'avez répondu non. Mmh. Qu'est-ce qu'il faut pour faire revenir ces gens-là dans une forme de réalité ?
Très franchement, je pense que c'est le même problème qu'avec les sectes, c'est-à-dire que des gens, parfois, finissent par en sortir.
C'est ça, mais de même.
C'est un cheminement personnel. Il y a un moment, quelque chose dans leur tête, une graine a été semée, puis ça germe, mais ça prend du temps, ça peut prendre des mois ou des années ou des décennies. Puis à la fin, ils en sortent. Et quand ils en sortent, la plupart du temps, ils en ont honte. La plupart du temps, ils ne témoignent pas. La plupart du temps, ils n'en font pas la publicité parce qu'ils se sentent floués, ils se sentent dupés. Et ils se disent, mais comment j'ai pu croire à ça ? Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup chez des anciens complotistes, chez des gens qui ont souscrit à ça, qui ont diffusé ces idées-là et qui en nourrissent à la fois un petit sentiment de culpabilité en se disant, mais j'ai diffusé ça, et surtout de honte par rapport à ce qu'ils croyaient.
Rudi, quel message aussi on peut faire passer à l'entourage ? Si on a quelqu'un dans notre entourage qui déraille, on n'en rit évidemment pas, on ne faillite pas non plus.
Si vous avez un proche qui tombe là-dedans, si vous tenez à cette personne, moi, ce que je conseille, c'est de jamais rompre le lien, de continuer à parler, mais en revanche, de lui tenir un discours de vérité, de lui dire que là, elle est en train de dépasser les bornes, de dépasser la ligne rouge, que non, on ne peut pas soutenir ces choses-là, qui sont complètement ineptes, qui sont complètement antiscientifiques, voire parfois racistes, antisémites, parce que c'est aussi lié à ces choses-là. Donc voilà, avoir un discours à la fois ferme sur le fond et en même temps bienveillant. Parce que si vous avez un ami ou quelqu'un de votre famille qui bascule là-dedans, ce sera aussi dangereux pour elle.
C'est la même chose que pour les sectes. Hein.
Ouais.
En fait, c'est une forme d'embrigadement de la pensée.
Absolument.
Et c'est effectivement sectaire. Merci infiniment d'avoir accepté
notre
invitation. Alors, je conseille votre site dont vous êtes le fondateur, Conspiracy Watch. Je conseille également la lecture de Franc-Tireur et de votre chronique Le Complot de la Semaine. Parce que moi, si vous vous posez une question sur un sujet, eh bien, vous allez lire Le Complot de la Semaine et vous verrez que ça vous est démonté en deux temps, trois mouvements et de façon brillante. Et puis, votre livre Au cœur du complot, donc sorti aux éditions Grasset. Merci à vous.
Merci beaucoup.
À bientôt sur RTL. Merci à toute mon équipe de petits reptiliens. Je vois bien dans vos yeux là. Céline Bonnet, Quentin Azoula, Bastien Robin et Marc Bisset qui sont bel et bien des humains et des professionnels. Très bonne soirée à l'écoute d'RTL.